fin 2010. Les pays émergents d'Asie, d'Amérique du Sud, ainsi que l'Afrique, ont foi dans leur avenir. Tandis que les pays européens, la France en tête, envisagent 2011 avec pessimisme, selon un sondage BVA Gallup réalisé dans 53 pays. Fin 2011. L'enquête annuelle BVA Gallup International sur l'optimisme à travers le monde classe la France au premier rang des pessimistes. 8 Français sur 10 estiment que 2012 sera une année de difficultés économiques. Un record depuis 35 ans d'enquête. Paradoxalement, l'étude montre l'espoir des pays émergents. Ainsi, le Nigeria arrive en tête des pays les plus optimistes. Fin 2014. Selon l'étude annuelle BVA Win, la France est la deuxième nation la plus pessimiste du monde. On n'est plus les premiers. Derrière, les Italiens. Seuls 17% des Français pensent que l'année 2015 sera meilleure que l'année 2014, contre une moyenne de 53% dans les autres pays. Fin 2018, les Français champions du monde du pessimisme. Et sans surprise, fin 2020, les Français n'avaient jamais été aussi pessimistes vis-à-vis d'une nouvelle année. 2020 bat encore un record. Chers frères et sœurs, en lisant ces sondages, je me suis demandé ce que le Seigneur pouvait bien penser de nous, les Français. Et nous qui nous disons chrétiens, est-ce que nous cédons au pessimisme ambiant ou est-ce que nous avons des raisons de voir la situation autrement ? Est-ce que nous râlons avec la foule ou est-ce que nous sommes des vecteurs de louanges ? Et d'espérance. Alors en ce début d'année, plutôt que de râler ou de craindre ou de pousser des lamentations, j'ai souhaité que nous cherchions à nous approprier toutes les promesses de notre Dieu. Tout ce qui est supposé être pour nous sujet de louange, sujet de joie, d'espérance, tout ce qui peut nous permettre de commencer cette année de la même façon que la nature au printemps, c'est-à-dire par le renouveau. Et aussi tout ce qui peut nous permettre de mener cette année jusqu'au bout sur les mêmes bases, pourvu que le Père Céleste nous prête vie, bien sûr. Alors pour ce faire, je me suis appuyé essentiellement sur l'évangile de Jean, que je vous invite à lire et à relire aussi souvent que nécessaire tout au long de cette année 2021. Pour ce dimanche, nous allons en partager de larges extraits, en commençant tout au début. Au commencement de toute chose, la parole existait. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toute chose par lui. Rien n'a été fait sans lui. Ce qui a été fait avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. Puis au verset 9, cette lumière était la seule lumière véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes. Celui qui est la parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Et nous avons entendu le témoignage ce matin de Anne-Sophie. Et je pense que beaucoup d'entre vous pourraient témoigner de ce que Dieu leur a donné une nouvelle vie et de ce qu'il nous donne chaque jour une nouvelle vie. Celui qui est la parole est devenu un homme. Et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Jean, le Baptiste, lui a rendu témoignage. Il s'est écrié, « C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, il vient après moi, mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. » Nous avons tous reçu notre part des richesses de sa grâce. Et ça a été prié ce matin, nous l'avons entendu en prière aussi ce matin. Nous avons tous reçu notre part des richesses de sa grâce. Nous avons reçu une bénédiction après l'autre. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je continue au chapitre 3, verset 14. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Un peu plus loin encore, au chapitre 14, « Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. » Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Et enfin, au verset 26, le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Fin de la lecture. Une nouvelle année, c'est comme une page blanche. Tout reste à écrire. C'est donc le bon moment pour faire les bons choix et prendre de bonnes résolutions. Totalement inutile, m'a dit quelqu'un récemment. Ces résolutions, de toute façon, elles ne dépassent pas le mois de janvier. Alors, en ce début d'année, pour que ces résolutions survivent et produisent leurs fruits, je vous invite à vous appuyer sur les promesses de notre Dieu, sur tout ce qui peut être pour nous sujet de louange, de joie, d'espérance et surtout de renouveau. Comme définition de renouveau pour cette année, je vous propose ce sens, certes restrictif, mais ô combien utile, renouveau, égale nouvelle manière d'envisager les situations. Renouveau égale nouvelle manière d'envisager les situations. Mais au fait, quelles sont donc les promesses de Dieu pour nous? Chacune d'elles est une véritable bénédiction que Jésus-Christ nous a acquise et que l'apôtre Jean que nous venons d'entendre nous a rappelé. Nous avons tous reçu notre part des richesses de sa grâce. Nous avons reçu une bénédiction et l'autre. En tout premier lieu, Jésus nous a acquis le droit de devenir enfants de Dieu. Certains l'ont reçu et ont cru en lui, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Alors peut-être êtes-vous en train de vous dire en vous-même, d'accord, ça je le sais, mais pratiquement, au jour le jour, qu'est-ce que ça m'apporte d'être enfant de Dieu ? La puissance de Dieu nous est montrée par la force déployée lors de la création du monde. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Romains 1, verset 20. Les scientifiques qui cherchent à découvrir les secrets de la création du monde ont bien compris qu'une énergie phénoménale, une énergie colossale a été nécessaire pour réaliser la création. Et nous, chrétiens, nous savons que cette force colossale est celle du Dieu éternel et qu'elle continue à se déployer dans le maintien et le bon ordre de l'univers. Alors si un tel Dieu, le seul Dieu, a souhaité faire de nous ses enfants, De qui pourrions-nous avoir crainte? Le roi David l'a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Sachant que nous sommes dans les bras de Dieu, sous sa protection et dans son amour, il n'y a pas d'endroit plus sûr. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite de triomphante. Et nous pourrions ajouter, comme ça a été témoigné ce matin, je suis ton rocher. Alors, comme premier renouveau, comme première nouvelle manière d'envisager les situations de cette année, si nous prenions la décision de faire confiance à Dieu, de nous reposer à lui, en lui, et de bannir la crainte, quel que soit l'état où nous nous trouvons. Oh, il ne s'agit pas de ne plus rien faire en nous affalant sur notre canapé du matin au soir, ou en nous cachant sous la couette, ou derrière notre console de jeu. Non, il s'agit bien de faire chaque jour tout ce qui est en notre pouvoir pour changer la situation qui nous préoccupe. Mais dès que nous l'avons fait, il s'agit de cesser de nous inquiéter pour le reste de la journée, de cesser de ruminer, de cesser de craindre, de cesser d'être pessimiste et de ne plus y penser jusqu'au lendemain. D'une manière pratique, ce que je vous propose, c'est de choisir un ou deux sujets d'inquiétude qui vous habitent, pas plus, et de les déposer chaque matin au pied du Père Céleste en lui disant « Père, je suis préoccupé par... » Je vous laisse compléter votre sujet de préoccupation. « Je suis préoccupé, mais je sais que tu es tout-puissant et que tu m'aimes. Je sais que rien ne peut me séparer de ton amour et que rien n'est trop compliqué pour toi. Guide-moi, Père, dans ce que tu attends de moi aujourd'hui et aide-moi à te faire confiance et à lâcher prise pour le reste. Père, je te prie par l'intermédiaire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et si la préoccupation revient à l'attaque, à un moment inopportun, renouvelez votre prière autant de fois que nécessaire. Et quand un sujet d'inquiétude aura disparu, n'oubliez pas d'exprimer au Père votre reconnaissance et de le louer, de le remercier. En vous comportant ainsi, vous agissez comme un enfant face à son Père et vous vivez naturellement votre qualité de fils ou fille de Dieu. Dieu qui est le Père parfait. Donc, premier renouveau, décidez d'avoir confiance en Dieu quoi qu'il arrive. Décidez de refuser la crainte chaque fois qu'elle nous assaille. De cette première promesse, fils ou fille de Dieu découlent toutes les autres. Par exemple, Jésus qui purifie les êtres humains de leurs péchés et ceux qui sont purifiés ont tous le même Père, nous dit la parole. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Jésus n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Si nous croyons en lui, Jésus-Christ, Fils de Dieu, a voulu que nous soyons ses frères et ses sœurs. Et nous pouvons le voir comme le grand frère parfait. Et si nous reprenons la lecture de l'Évangile, l'apôtre Jean poursuit en nous affirmant que de même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. En Jésus-Christ, Dieu nous offre la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie nous est accordée en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. « Je vous ai écrit cela, dit l'apôtre Jean, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Nous savons que nous appartenons à Dieu et que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence nous permettant de reconnaître le Dieu véritable. Nous demeurons unis au Dieu véritable grâce à son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable, c'est lui la vie éternelle. Savoir que nous avons la vie éternelle nous conduit tout d'abord à une immense libération. Nous sommes libérés de la peur de la mort. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Hébreux 2, verset 14-15. Dès que nous nous approprions cette promesse, le cadeau de la vie éternelle, dès que nous comprenons que la mort est vaincue et qu'elle n'est pas une fin, mais seulement un passage vers le monde incorruptible et vers la place préparée par notre Sauveur, nous sommes vraiment libérés d'un esclavage de peur. Nous pouvons dès lors envisager la vie de tous les jours et les diverses épreuves auxquelles nous sommes confrontés avec un regard tout différent, un regard libre. Cette liberté nous permet de lever la tête au lieu de regarder le bout de nos godasses et de nous ouvrir à la confiance en Dieu. Je lève les yeux, mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Psaume 121. Lui seul a le dernier mot et il nous aime. Il nous aime d'un amour parfait. Que demander de plus ? Mais me direz-vous, comment vais-je savoir que j'ai la vie éternelle ? L'apôtre Jean nous répond. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous le savons parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas est encore sous le pouvoir de la mort. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Or, vous savez qu'aucun meurtrier n'a de place en lui pour la vie éternelle. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, donc nous aussi, nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères. Alors, donner notre vie peut, à la limite, vouloir dire faire le sacrifice suprême. Et toutes les âmes des martyrs qui crient sous l'autel l'ont fait, voir Apocalypse 6. Mais nous ne sommes pas tous appelés à ce sacrifice-là. Par contre, nous sommes tous appelés à nous mettre au service de Dieu. Répondre à l'amour du Père nous conduit tout naturellement à nous mettre à son service. Comment ? En aimant et en servant nos frères et sœurs. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, a dit Jésus. Ainsi, nous pouvons savoir que nous avons la vie éternelle. Ce don de la vie éternelle nous apporte donc la fin de la peur de la mort. Mais aussi, il nous apporte d'être dès maintenant dirigés dans une vie sainte, au service de Dieu et de nos frères et sœurs. Ainsi, chaque jour, notre Seigneur nous émonde, il nous garde du mal, nous enseigne et nous aide à progresser vers sa perfection. Se savoir ainsi intégré au plan de Dieu nous apporte une joie profonde, une joie pérenne, indépendante des circonstances et le bonheur de se sentir à sa place, à sa vraie place. Nous découvrons ainsi une seconde promesse que je vous invite à vous approprier par un second renouveau. Se savoir vraiment libéré de la peur de la mort, se laisser diriger vers une vie sainte en nous mettant résolument au service de Dieu, en servant nos frères et sœurs. Avoir le bonheur de se sentir à sa vraie place. Être fils ou fille de Dieu et avoir la vie éternelle. C'est pas mal, non ? Et c'est pas fini. Plus loin dans l'évangile de Jean, nous trouvons les versets suivants. C'est Jésus-Christ qui parle. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Et aussi, le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, nous a dit Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Le Seigneur Jésus nous a envoyé de la part du Père l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Peut-être que pour vous, le Saint-Esprit est une notion très abstraite. Peut-être êtes-vous comme ces chrétiens d'Éphèse auxquels l'apôtre Paul demandait « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» et qui répondent « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Peut-être êtes-vous comme les apôtres de Jésus. Cela fait à peu près 3 ans qu'il est avec eux, presque jour et nuit. Il vient une nouvelle fois de leur annoncer sa mort toute proche et sa résurrection. Il vient de leur dire, Jésus vient de dire à ses disciples que l'un des leurs va le trahir et que Pierre va le renier. Ils sont complètement perdus. Ils ont tout quitté pour suivre le futur roi d'Israël et voilà qu'il leur annonce le pire du pire. Il y a de quoi être pessimiste comme les Français, n'est-ce pas ? Ils ne comprennent rien parce qu'ils n'arrivent pas à croire ce que Jésus est en train de leur dire. C'est tellement énorme que ça dépasse leur entendement. Alors Jésus les rassure en disant « Je vais partir, mais je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous, c'est l'Esprit de vérité. » Et Jésus ajoute « C'est aussi le défenseur, le paraclet. » Paraclet, c'est-à-dire celui qui se tient à côté et qui plaide pour nous. C'est l'Esprit Saint, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Depuis le premier jour où nous l'accueillons, le Saint-Esprit est en nous. Il fait sa demeure en nous. Il ne nous visite pas de temps en temps quand il n'a rien de mieux à faire. Non, il est constamment présent et attentif. Il ne dort pas. Et aujourd'hui encore, au XXIe siècle, le Saint-Esprit envoyé par le Père peut nous apporter du renouveau, une nouvelle manière d'envisager les situations pour cette année. Rappelons tout de même que le Saint-Esprit est une personne à part entière avec le Père et le Fils, et que sa première œuvre en nous est de nous convaincre de péché. Sans cette conviction, nous ne pouvons pas comprendre que nous avons besoin d'un Sauveur. Sans cette conviction, nous ne pouvons pas mesurer l'amour du Père et du Fils pour nous. D'autre part, le Saint-Esprit est auprès de nous pour nous enseigner, nous témoigner, nous convaincre, nous conduire dans la vérité. Il nous entend et nous parle. Il peut nous protéger à l'occasion. Il peut aussi annoncer les choses à venir. Tout ça, c'est dans Jean 16, verset 13. Le Saint-Esprit possède les attributs divins. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est-à-dire qu'il a, il a la connaissance sur tout. Il est présent partout à la fois, en tout lieu, en tout temps. Et il a toute puissance. Rien n'est trop compliqué pour lui, rien n'est trop dur pour lui, rien n'est trop fort pour lui. Et en plus, il est éternel. Le Saint-Esprit est un lien permanent entre le Père, le Fils et nous. C'est une personne, sa personnalité est extrêmement riche. Sa personnalité lui permet de pouvoir intervenir dans tous les domaines de notre vie. Il faudrait de très nombreux messages pour prétendre le cerner, ne serait-ce qu'un petit peu. Aujourd'hui, je me contenterai donc de quelques petites touches qui le caractérisent. Comme nous l'avons vu, La première œuvre que le Saint-Esprit accomplit en nous, c'est de nous convaincre de péché. Peut-être n'avez-vous pas encore vécu ce moment extraordinaire. Si c'est le cas, ma prière aujourd'hui est que vous le viviez, ce moment, cette année. Tout d'un coup, un beau jour, on réalise. D'un seul coup, on réalise. On réalise combien le Seigneur est saint et combien la distance entre moi et lui, entre nous et sa perfection, est immense et incommensurable. La même distance qu'entre le ciel et la terre, dit la parole. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. Tout à coup, on se sent minable et honteux. On découvre la pauvreté spirituelle de son existence. Sur le moment, il y a de quoi être complètement abattu, comme les disciples. Mais le plus extraordinaire, c'est la suite. Le Saint-Esprit ne nous convainc pas de péché pour nous écraser, mais pour nous relever et nous libérer, pour que nous ayons la possibilité de demander pardon et d'être purifiés. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Un beau jour, je me suis senti minable et honteux. J'ai demandé pardon en mon cœur, comme je n'avais jamais demandé pardon auparavant, c'est-à-dire avec un cœur vraiment contrit, avec des regrets sincères, à la mesure de la bonne image de marque que j'avais de moi avant. Et avec le Saint-Esprit qui mettait le doigt sur ce qu'il fallait que je confesse au Seigneur. À la suite de ça, j'ai reçu une joie et une paix que je n'avais jamais connues. Je me suis senti pardonné, je me suis senti purifié et prêt à repartir complètement à zéro sur une base nouvelle. Cette joie et cette paix, j'ai eu l'occasion de les retrouver à 2 ou 3 reprises dans ma vie. Si Dieu le veut, j'aurai 70 ans cette année, et à 2 ou 3 reprises, j'ai pu vivre cette paix, à chaque fois consécutivement à une demande de pardon que l'Esprit m'avait amené à faire. Parce qu'il nous émonde, qu'il retire les gros trucs d'abord, puis après il y a encore des... On a la poutre d'abord à retirer de l'œil, puis après il y a quand même la paille, et il y en a d'autres. Alors, comme nous l'avons évoqué plus haut, il y a une infinité de chemins que l'Esprit peut nous conduire à emprunter. Toutes nos vies sont différentes et l'Esprit y participe. Si nous acceptons de nous laisser guider, il est auprès de nous pour nous enseigner, nous témoigner, nous convaincre, nous conduire dans la vérité. Il nous entend et nous parle, et il peut nous protéger à l'occasion. Il peut aussi nous annoncer les choses à venir. Tout en étant Dieu lui-même, il est un lien permanent entre le Père et le Fils. Aussi, je vous propose comme troisième renouveau, dans votre prière quotidienne, demandez à l'Esprit-Saint de vous conduire dans une démarche de renouveau. C'est-à-dire, laissez l'Esprit-Saint vous convaincre de péché, le cas échéant, acceptez de faire une démarche de demande de pardon s'il vous invite à le faire, acceptez de pardonner à votre tour et recevez la purification. Dans la prière, ouvrez votre cœur à l'action du Saint-Esprit, quelle qu'elle soit. Puis ouvrez votre cœur à la joie et à la paix de Christ. Lors de votre prière, prenez aussi un temps de silence pour vous mettre à l'écoute. Parle, parle, Seigneur, ton serviteur écoute, dit un cantique. Être fils ou fille de Dieu, avoir la vie éternelle, recevoir et accueillir le Saint-Esprit. Comme nous l'a dit l'apôtre Jean, nous avons tous reçu notre part des richesses de la grâce de Jésus-Christ. Parce que tout ce dont nous venons de parler, nous le recevons par grâce. Nous avons reçu une bénédiction après l'autre. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors pour cette année 2021, au lieu de craindre ou de râler, approprions-nous ces promesses de Dieu et tournons-nous résolument vers le renouveau, vers une nouvelle façon d'envisager les situations. décider, être fils ou fils de Dieu, décider d'avoir confiance, avoir la vie éternelle, se savoir vraiment libéré de la peur de la mort, aimer nos frères et sœurs et les servir, recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Que le Saint-Esprit nourrisse vos prières jour après jour tout au long de cette année. Amen.